carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le monde de la gravure est un peu celui du secret, du silence, de la solitude de l'atelier, où le goût de la matière est primordial car il dirige la main qui incise, érafle et mord la plaque de cuivre. C'est de gravure dont nous allons parler aujourd'hui à Canal Académie en compagnie de Louis-René Berge. Louis-René Berge, vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2006. Vous êtes artiste, graveur, buriniste. Je suis ravie de vous accueillir dans le studio de Canal Académie. Nous avons fait connaissance sur les lieux mêmes de l'exposition que vous avez initiée à l'espace Cardin, qui se déroule du 14 au 20 mai 2008 et qui a pour titre « La section de gravure de l'Académie des Beaux-Arts expose et reçoit ses invités ». Nous allons parler de cette exposition et voir que, pour vous, la gravure est une écriture. Louis-René Berge, bonjour.
Bonjour.
Louis-René Berge, vous êtes membre de la section de gravure, je viens de le dire, de l'Académie des Beaux-Arts. Pouvez-vous justement nous présenter cette section de gravure ?
Alors, cette section de gravure est une petite section.
Oui.
Par rapport aux autres, les peintres, les architectes. Nous, on est tout petits. Nous sommes quatre.
Quatre graveurs.
Alors, les quatre graveurs sont, ou étaient plus exactement jusqu'à août dernier, Granier, qui est un graveur buriniste, de grand talent, bien sûr, et Pierre-Yves Trémois, qui est un graveur qui a été très, très connu, qui l'est encore, d'ailleurs, et Guilvic, qui est un graveur qui fait des timbres. Alors, cette section est assez mal perçue. D'abord parce qu'elle est petite, ensuite parce que c'est une section de gravure et que la gravure n'est tout de même pas tellement bien diffusée, donc connue. Et quand je suis arrivé, j'étais un petit peu étonné d'ailleurs. C'est un peu le calme plat. Alors nous espérons maintenant qu'avec la venue d'un nouvel académicien, des Mazières. Ensuite, je dois dire que j'ai pu rentrer Claude Jean d'Armont comme correspondant, qui est un graveur, qui est le président de la section gravure du Salon d'automne et qui est un très bon conférencier. Alors là, déjà, ça va peut-être un peu muscler notre petite section.
Donc actuellement, vous êtes quatre avec un correspondant.
Voilà.
Comment est venue l'idée d'une exposition de la section de gravure, justement, de l'Académie à l'espace Cardin ? Qu'est-ce que vous souhaitiez faire en organisant cette exposition ?
Alors, le but que je me suis fixé en arrivant dans cette compagnie, c'est de faire connaître la gravure, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi.
À l'intérieur même de l'Académie des Beaux-Arts.
Et c'est pour ça que j'ai
demandé... Vous aviez envie qu'elle existe de façon plus visible.
Voilà. Et c'est pour ça que j'ai demandé, vous savez que tous les trimestres, une lettre de l'Académie. Et j'ai demandé à ce qu'une lettre soit consacrée à la gravure. Ça m'a été accordé et cette lettre est parue il y a quelque temps.
Voilà, c'est un très beau numéro entièrement consacré à la gravure et qui s'appelle « Et la gravure ?» Point d'interrogation, regard croisé sur une discipline artistique méconnue. C'est le numéro du printemps 2008.
Voilà. J'ai voulu donc que mes confrères connaissent un peu la gravure, parce qu'en fait, ils ne la connaissent pas. Et puis ensuite, il est un fait que l'Académie est mal perçue par les graveurs qui travaillent actuellement. Et j'ai voulu justement organiser une manifestation en invitant des graveurs, disons de qualité, pour qu'ils puissent s'intéresser à l'Académie et qui sache que l'Académie existe.
Et dispose d'une section de gravure.
Et dispose d'une section de gravure et éventuellement peuvent les aider. Mm-hmm. C'est ça que je voudrais qu'on arrive à faire. C'est-à-dire qu'il y a un plus de lien entre l'Académie qui est un petit peu fermée sur elle-même et sur le monde de la gravure.
Et la section de gravure décerne des prix de gravure ?
Alors, oui, ça c'est une chose qui est tout de même importante, c'est qu'il y a un certain nombre de prix. Il y a un prix Cardin, qui est un prix de 6 700 euros, je crois, qui est décerné chaque année. C'est le plus grand prix jusqu'à maintenant.
Oui.
Parce qu'il va y en avoir un qui va être très important. Et puis, il y a des petits prix chaque année d'encouragement, etc. De 1 000 euros, 1 500 euros, etc. Et il va y avoir justement, puisqu'on a eu l'occasion plus exactement de proposer au Perpétuel un prix, je ne me souviens plus qui exactement, et qui était destiné au cinéma. Et le Perpétuel a eu la bonne idée de dire, ben non, on va donner ce prix à la gravure, à la section gravure, qui est un prix de 15 000 euros.
Oui, c'est un beau prix.
C'est tout de même un très beau prix. Mmh. Et ça, je suis très reconnaissant au Perpétuel d'avoir fait ce geste. Donc il y a des prix, effectivement. C'est une chose qui tout de même fait connaître, nous fait connaître, auprès du public de la gravure. Mais enfin, c'est assez insuffisant.
Par cette exposition, vous avez donc voulu créer un petit événement pour que les deux mondes se rencontrent, ceux de l'Académie avec les graveurs contemporains de l'extérieur, bien sûr, et puis pour aussi faire parler un peu plus de gravure au sein de l'Académie. Mais qu'est-ce que vous souhaitiez faire? Vous avez voulu rendre hommage à quatre grands graveurs qui ont disparu. Vous évoquiez tout à l'heure, justement, Jean-Marie Granier. Donc, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de cet hommage que vous aviez voulu faire.
Alors, justement, quand Jean-Marie Granier est décédé, pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, c'était un homme avec qui je ne m'entendais pas toujours, on n'était pas toujours d'accord, mais enfin, j'avais une grande admiration pour son travail, et pour lui-même d'ailleurs, qui était un personnage assez particulier, très volontaire. Je lui avais déjà dit, écoute, on pourrait peut-être faire une exposition de gravure. Oh, il m'a dit, écoute, tu demandes à notre confrère Cardin. Et j'ai été voir Cardin et il m'a dit, oui, tout à fait d'accord. Et puis ensuite, Granier a disparu. Et j'ai repris alors dans cette idée, bien entendu. Et à ce moment-là, j'ai voulu faire une exposition qui avait deux buts. Celui de faire un hommage à Granier, un hommage appuyé. Et en même temps, de rendre un hommage à les trois derniers graveurs, c'est-à-dire De Caris, qui est tout de même une grande pointure dans le Burin, dont l'image, évidemment, est de son époque. Ensuite, Jacquemin, qui est un très bon paysagiste, et il fait de bons portraits à la Pointe Sèche et à l'Eau Forte, et à Vieillard,
qui est un
très grand graveur, qui malheureusement est mort pratiquement deux jours après son installation, que j'avais interviewé d'ailleurs assez longuement, quelques mois avant son entrée à l'Académie. Alors voilà, donc ça a été une première chose, et c'est ça qui a un petit peu embrayé l'exposition. D'accord. Car au fond, faire une exposition de gravure, ça va coûter cher, tu comprends. Enfin, finalement, le fait de faire un hommage, ça a déjà arrangé les choses.
Mais alors, vous avez choisi d'exposer, le titre, c'est « La section de gravure de l'Académie des Beaux-Arts expose et reçoit ses invités ».
Alors,
Louis-René Berge, qui sont ses invités ?
Alors, ses invités, c'est moi qui les ai choisis.
Oui.
Et j'ai choisi un florilège, je ne sais pas comment dire, un panel de graveurs très différents, de techniques très différentes, et des gens de qualité, je pense, d'une certaine maturité, c'est-à-dire ça va entre 40 et 60 ans. Donc ce sont des graveurs généralement bien connus. Et j'ai pu en inviter 18.
D'univers différents.
D'univers différents. Il y a du noir, noir et blanc, il y a de la couleur, il y a des gravures sur cuivre, sur bois, enfin...
Vous avez voulu rendre compte un peu de la diversité...
C'est ça, de manière à montrer, une exposition où il y a un petit peu tout ce qu'on peut montrer en gravure.
Y compris les choses les plus contemporaines.
C'est très contemporain, tout est très contemporain. C'est-à-dire, puisque je vous dis que ces graveurs ont entre le plus jeune, je crois, à 42 ou 43 ans, et puis ça va jusqu'à 60 ans à peu près.
Et au niveau des techniques?
Alors, au niveau des techniques, on a absolument tout. Puisque, alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a donc toutes les techniques, et surtout, avec une même technique, l'image est très différente. Ce que les artistes disent avec un même outil est très différent. Et par exemple, le burin, que je connais particulièrement bien, puisque je suis buriniste. Le burin, par exemple, si on prend quelques exemples, les burins de Jobert, ou les burins de Muron, ou les burins de Catherine Gillet sont vraiment très différents. Je dois dire, même il y en a une qui est Catherine Gillet, on ne croirait jamais que c'est du burin. Or, c'est du burin. Alors, le burin, c'est un fait, c'est un peu une attitude. On a chacun une manière d'être bien avec un outil. Or, en ce qui concerne le burin, les burinistes sont des gens qui sont ce qu'on appelle c'est de la gravure en taille directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Alors que dans l'eau forte, il y a un intermédiaire qui est l'acide. Mmh. Voilà. Ensuite, alors, il y a le bois qui s'apparente un peu au burin. C'est-à-dire que c'est une taille directe aussi. Et il y a aussi deux exemples, trois mêmes exemples de bois. Il y a du bois de fil. Bon, c'est un peu compliqué, enfin, disons, à expliquer. Et du bois debout, qui est le japonais. Le bois de fil, c'est Jean Loche, par exemple. Et puis, il y a Doharé.
Yves Doharé.
Et puis, il y en a un qui était sous vitrine, qui s'appelle Grosborn, qui, lui, fait de la gravure sur lino. Et c'est un peu comme du bois. C'est un peu pareil.
La matière est assez...
Oui, c'est une matière assez
similaire,
dure.
Au travail.
Et on travaille de la même manière.
D'accord. Parmi cette sélection de 18 artistes à peu près, que vous avez choisi de faire découvrir au public, quelles sont les œuvres que vous pourriez évoquer, sachant que vous ne pouvez pas toutes les présenter, bien sûr, mais est-ce qu'il y en a une ou deux qui pourraient retenir davantage notre attention, sachant qu'on est à la radio? Est-ce qu'il y en a une que vous pourriez évoquer?
Bon, alors il y en a une qui est un peu particulière, mais je pense que mon ami Éric Desmazières va parler de son.
Mais c'est
son
toujours
travail.
Bien de parler, oui, de parler d'un autre, oui, graveur. J'aimerais
alors,
bien vous entendre.
Il est
justement
un peu particulier dans cette exposition, et justement, je l'ai accroché d'une manière très délibérée à côté d'un buriniste qui s'appelle Catherine Gillet, qui est vraiment alors très très contemporaine comme image.
Oui.
Bon. Et lui, il est très contemporain aussi, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que son image a l'air classique, ancienne. Et par contre, quand on regarde de près sa gravure, on voit qu'elle est très contemporaine. Il a son monde, il a son écriture, mais il faut avoir l'œil. Parce que j'ai entendu beaucoup de réflexions, notamment à l'Académie. Alors, on me dit même que c'est quelque chose d'un peu ancien, etc. Or, j'ai essayé de prouver le contraire, de dire que, et finalement, un certain nombre ont été convaincus. Alors ça, c'est un cas assez, assez particulier. Il y a un autre cas aussi.
Une très belle gravure donc qui présente là de l'atelier
alors là,
de René Tazé,
très,
qui est
très
très belle,
très belle
gravure. Belle. Parmi la sélection des artistes que vous aviez fait, il n'y avait pas d'académicien. Là simplement, alors, entre le moment où vous avez monté l'exposition,
voilà, oui,
et le jour du vernissage,
oui,
Éric Desmazières a été élu académicien.
C'est ça. Alors
académicien.
Moi, j'étais très très heureux de cette circonstance.
C'est la raison pour laquelle il
voilà
figure parmi,
voilà,
les.
Exactement.
Les
alors que les autres académiciens et le correspondant n'ont pas,
n'ont pas été exposés. Avez-vous voulu que l'accrochage réponde à une logique particulière, un
non,
sens particulier
y a,
que
non,
vous aviez, il y avait deux espaces quand même délimités entre les œuvres des graveurs disparus de l'Académie et puis
ah oui,
les autres.
Oui,
plus
oui, ça, ah, tout à fait. D'ailleurs, les graveurs qui étaient dans une espèce de rotonde,
oui,
où d'ailleurs j'ai fait venir un taille-dossier, Michel Cornu, qui est venu faire des démonstrations. Il a porté sa machine et il a fait pendant 3 jours des démonstrations qui ont d'ailleurs eu beaucoup de succès. Donc non, dans l'accrochage a été difficile, cet accrochage. Enfin, j'ai été aidé, notamment Éric Desmazières m'a aidé, Robert Grosborn aussi. Et ça a été un petit peu, oui, au début, un petit peu difficile de mettre à côté des gens très, très différents. Mais il y avait de l'espace, ce qui fait qu'on pouvait ménager un espace suffisant entre les artistes. Donc, je crois, en tout cas, on me l'a dit, ça fonctionnait assez bien.
Alors, comment se porte la gravure contemporaine en France aujourd'hui ?
Eh bien, elle se porte mal. Elle se porte mal. Alors, il y a une raison historique, c'est qu'après la guerre, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, ils achetaient des gravures. Et puis, à partir du moment où le niveau de vie est monté, les gens sont commencés à s'intéresser à la peinture. Et j'ai eu des amis qui ont eu ce parcours. Ils ont commencé par acheter des gravures. Et puis ensuite, ça a été aussi le fait que les marchands eux-mêmes se sont aperçus qu'ils se donnaient autant de mal pour vendre un tableau qu'une gravure. Sur un tableau, il y a beaucoup plus. Alors, il y a eu cette conjugaison de ces deux phénomènes qui font que la gravure a un petit peu disparu. Et c'est là, maintenant, il reste peut-être deux, trois galeries spécialisées dans la gravure, dont Michel Brouta, qui est extrêmement importante, qui est reconnue internationalement.
Et autrefois, tous les peintres faisaient de la gravure aussi.
Alors, oui,
même.
Alors.
Ça faisait partie de la formation.
Oui, alors, il y a effectivement. Après
comment
la guerre,
ça se passe aujourd'hui alors,
après la guerre, les peintres faisaient de la gravure pour diffuser leur œuvre.
Oui.
C'est ce que je n'aimais c'était pas d'ailleurs, parce qu'au fond, leur création était une création de peinture et pas de gravure.
Oui. Bon.
Et puis, quand les peintres ont vu que la gravure ne se vendait pas, ben, ils ont arrêté. Et ça a saigné, d'une certaine manière, la gravure.
Oui.
Car à ce moment-là, ce sont des vrais graveurs
qui
ont utilisé la gravure pour leur
œuvre.
Pour leur travail. Parce que je crois qu'on choisit finalement son médium en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, alors la gravure maintenant, bon, elle existe toujours. Je pense qu'elle traverse un mauvais moment. Maintenant, ça peut changer. Il faut bien dire, le paradoxe, c'est qu'il y a énormément de gens qui font de la gravure. Alors évidemment, il y a énormément de gens qui font de la gravure en amateur. Il y en a tout de même beaucoup moins, peut-être une centaine, 150 ou 200 qui font vraiment de la gravure.
Mais ça fait quand même un public d'amateurs.
Mais ça fait un public, voilà, ça fait un public d'amateurs. Et puis bon, je pense qu'on est un peu, pour le moment, dans une mauvaise période, mais que on peut être optimiste. Les choses vont revenir. Enfin, il faut y croire, en tout cas.
Alors, est-ce que c'est une particularité française, ce retrait, disons, de la gravure par rapport aux autres
arts ? Ça, je ne sais pas. Je sais qu'en tout cas, la gravure se vend beaucoup mieux à l'étranger. Aux États-Unis, la gravure est honorée. En Allemagne, dans les pays de l'Est.
En Europe aussi.
En Europe aussi, en Hollande.
Au marché français.
Voilà, le marché français. Oui, non, mais c'est assez particulier. Mais c'est le marché français mou, très très mou,
alors,
par rapport aux autres.
Alors, quels sont les futurs projets de la section de gravure ? Une autre exposition l'an prochain, prochainement,
écoutez,
ailleurs ?
Alors, écoutez, il y a un projet qui est très récent. Donc je peux parler aujourd'hui, je ne pouvais pas en parler avant. Je me suis étonné qu'à la bibliothèque, il n'y ait pas de...
La bibliothèque de l'Institut.
La bibliothèque de l'Institut, oui. Et qu'il n'y ait pas de gravure, qu'il n'y ait pas un dépôt. Étant donné qu'il y a une section de gravure,
oui.
Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai déjeuné avec Mme Pastoureau, qui est
la directrice
de la
bibliothèque.
Et nous allons monter... Je lui ai demandé si je pouvais en parler, parce qu'il faut qu'elle en parle au chancelier.
Mm-hmm.
Mais comme je connais un petit peu le chancelier maintenant, et qu'il aime bien la gravure, je pense que ce projet va se faire. J'ai même été au cinquième étage, où il y a des...
Mais il y a déjà des gravures, mais
non,
il n'y a peut-être pas un fond.
Non, il n'y a pas de gravure. Il y a des livres,
oui.
Où il y a des graveurs qui ont illustré des livres. Et cette idée va prendre corps et va peut-être donner justement la possibilité de faire une exposition, d'exposer. Alors on va commencer par, bien sûr, les gravures de l'Académie, et puis on verra ce que ça donne, et puis peu à peu, on pourrait en faire appel à des graveurs qui voudront bien déposer leurs gravures. Parce que, bien sûr, nous déposons tous nos gravures à la Bibliothèque nationale.
Oui, qui a une
tout le monde dépose, alors.
Mais c'est déjà une mine.
C'est déjà une mine, oui, mais c'est
ouverte aux graveurs.
Oui, mais alors, il y en a tellement qu'on est un peu perdu. Mais enfin, disons que c'est extrêmement bien fait. D'ailleurs, je pense qu'on prendra modèle. Ils sont tous les anciens élèves de l'école des Chartes, donc ils se connaissent très bien. Et donc, on va prendre langue avec des gens de la Bibliothèque nationale pour qu'il y ait une communication entre l'Institut et la Bibliothèque nationale. Ça, c'est mon
donc
dernier...
C'est votre dernier projet.
C'est mon dernier enfant.
Bon. Alors, merci Louis-René Berge pour la présentation d'abord de cette première exposition de la section de gravure de l'Académie des Beaux-Arts et puis de nous avoir présenté vos projets pour le plus grand plaisir des amateurs de gravure. Merci de nous avoir présenté.
Je vous remercie, moi, de m'avoir invité.
Toutes ces œuvres. Merci.
Voilà.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet et de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémois, mais aussi le monstrueux dans l'art ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Académie vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Éric de Mazières, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'au studio de Canal Académie pour parler de cette exposition qui s'est déroulée à l'Espace Cardin sur les graveurs. Alors, on parlait justement de vous avec Louis-René Berge. Vous venez d'être élu membre de l'Académie des Beaux-Arts il y a très peu de temps, en avril dernier. Vos gravures avaient été choisies par Louis-René Berge pour faire partie de cette exposition, puisque l'exposition avait pour but de montrer des œuvres de graveurs contemporains. Et entre-temps, vous êtes devenu académicien entre la préparation d'exposition et puis le vernissage. Alors on parlera plus longuement de votre travail et de votre œuvre dans une prochaine émission justement qui sera entièrement consacrée à votre travail. Et aujourd'hui je vous invite à un exercice effectivement un petit peu délicat qui consiste à parler de la gravure des autres et justement en particulier des œuvres qui étaient exposées
à l'Espace
Cardin. Alors comme nous l'a expliqué M. Berge tout à l'heure, l'exposition était aussi organisée autour de quatre graveurs disparus, de quatre grands noms de la section de gravure de l'Académie des Beaux-Arts, auxquels il avait souhaité rendre hommage, Jean-Marie Granier, Roger Vieillard, André Jacquemin et Albert de Carys. Est-ce que vous pourriez nous les situer un peu, nous dire quelques mots de leur univers et de leur œuvre, bien sûr.
Alors il y a un petit paradoxe dans le sens que j'ai donc été élu pour succéder à Jean-Marie Granier en avril dernier et que de ces quatre graveurs, c'est le seul que je n'ai jamais rencontré. Mmh. Puisque j'avais connu, pas bien, mais tout de même, Albert de Carys au tout début des années 80, même fin des années 70, André Jacquemin également, et Roger Vieillard, qui en plus avait été président d'une association de graveurs qui s'appelle la Société des peintres graveurs français, et je lui ai plus tard succédé dans cette association. Donc lui, je l'ai assez bien connu. En revanche, Jean-Marie Granier, qui était professeur aux Beaux-Arts et qui était ensuite directeur de Marmottan, je ne l'ai jamais rencontré. Une des raisons étant que je n'ai pas fait l'école des Beaux-Arts, que j'ai appris tout à fait différemment. Par conséquent, l'intérêt de cette exposition a été pour moi la découverte de son œuvre. J'avais vu très peu de choses et là, j'ai quand même été étonné en bien d'ailleurs, par ce que j'ai vu, c'est-à-dire la monumentalité de ces gravures.
Mais ce sont de grandes gravures.
Oui, ce qui sont pour des burins. Le burin étant quand même une technique de la précision, ça s'exprime rarement en grand format. Il se trouve que Granier le fait, ainsi que de Carys d'ailleurs, qui est aussi un graveur connu pour des planches monumentales. J'ajouterais, c'est une parenthèse, qu'il se trouve que, d'une certaine manière, la présentation des gravures de Granier se trouve être prolongée par une exposition qui a lieu actuellement au musée Marmottan, qui s'appelle « Premier été contemporain », où est présenté un ensemble plus important encore de gravures de Jean-Marie Granier, qui en avait été le directeur. Et là aussi, ça m'a convaincu de l'importance de cet artiste qui, manifestement, dans le paysage de la gravure française, n'est pas à sa place.
N'est pas assez connu.
Le fait est peut-être... la raison en est que je crois qu'il ne s'est jamais intéressé à l'aspect commercial de la diffusion de son travail, qu'il était professeur aux Beaux-Arts, puis plus tard directeur de Marmottan. Par conséquent, son souci n'était pas d'en faire un commerce comme ça. Et par conséquent, malgré l'abondance de l'œuvre, c'est très peu diffusé dans ce qu'on peut appeler le marché, disons. Par conséquent, il y a là un déficit qu'il faudrait
combler. Quelle est la particularité de son univers ?
Alors, pour moi, qui suis dans un univers tellement différent, oui, enfin, très figuratif, qui utilise l'eau forte, l'aquatinte, je suis face à quelque chose qui m'est opposé, on peut dire. Et c'est peut-être pour ça que ça me séduit, d'ailleurs. C'est parce que c'est un monde très austère, très rigoureux, qui apparaît un peu, comme quand on voit ça de loin, comme des partitions musicales, comme quelque chose sur le rythme, mais qui impressionne par la monumentalité quand même et par le raffinement du trait. C'est un très beau trait. Bon, alors c'est un œuvre que je ne connais pas, à part donc ces quelques gravures vues à l'Espace Cardin et à Marmottan. Et donc je ne connais pas encore bien ce qui a précédé, disons, car il m'a semblé que ce qui était exposé là était plutôt des œuvres de la fin des années 80, milieu des années 80. Or, c'est un homme qui était âgé, donc il y a tout quelque chose qui a précédé. Enfin, Marmottan présente des scènes de tauromachie qui, elles, sont figuratives et qui sont beaucoup plus anciennes. Alors ça laisse supposer qu'il y a toute une évolution chez lui, probablement de la figuration à l'abstraction, et par conséquent...
Ne l'enfermons pas dans une étiquette.
Absolument. Et le fait de ne pas le connaître a pour moi un intérêt, c'est que je vais devoir me livrer à un travail presque de chercheur qui consiste à découvrir une œuvre sans être gêné quelque part par la connaissance subjective du personnage. Je vais découvrir Jean-Marie Granier comme un étudiant d'histoire de l'art étudie un graveur ou un artiste qu'il n'a pas du tout connu.
Comment vous avez découvert les autres graveurs parmi ces quatre noms?
Alors il se trouve que j'ai travaillé à mes débuts avec une galerie qui s'appelait la galerie Bernier, qui était située 4 rue Jacques Callot, tout près de l'Institut.
Ah, Jacques Callot, c'est...
Et cette rue qui donne dans la rue Mazarine, et que Albert de Caris fréquentait cette galerie, et donc il s'est trouvé qu'il a eu connaissance de mes œuvres fin des années 70. Même chose pour Jacquemin, qui était d'ailleurs exposé. Je ne crois pas que de Caris était exposé dans cette galerie, mais Jacquemin l'était. Et donc, par le canal de cette galerie, j'ai fait sa connaissance. C'est d'ailleurs la seule fois qui m'avait été donnée d'entrer à l'Institut. J'avais assisté à sa cérémonie d'installation. Et Roger Vieillard, comme je vous l'ai dit, c'est au sein de la Société des peintres graveurs dont il s'occupait depuis longtemps et qui organisait tous les 2 ans des expositions. Et je me souviens très bien de l'accueil que j'étais tout jeune graveur, et Roger Vieillard, très gentiment, me complimentant, me disant « Ah, cette année, vous nous avez fait un bel envoi, on est très heureux, etc. Et » Et lui aussi, alors que bon, De Caris et Jacquemin sont des artistes figuratifs, et bon, avec lesquels je peux me trouver des correspondances, Roger Vieillard est un artiste figuratif, mais vraiment très particulier, un burin... qui est redevable de son époque, mais qui est très original, avec aussi des œuvres en plâtre, en 3 dimensions, enfin qui s'apparenterait parfois à un excellent artiste qui s'appelle Pierre Courtin. Et lui aussi, alors qu'il est très différent, j'ai toujours beaucoup apprécié son travail. Et puis donc humainement, il m'a beaucoup encouragé à mes débuts, comme de Caris d'ailleurs. Qui n'avait, je crois, pas été étranger au fait que j'avais eu un prix de la ville de Paris en 1978.
Parmi les 18 graveurs invités exposés, quels sont ceux qui vous touchent le plus ? Qu'est-ce que votre œil a vu, Éric de Mazières ?
Bon, cette exposition a été organisée par Louis-René Berge. Une des premières fois, quand il m'a proposé de participer à cette exposition, il m'a montré une liste des invités, et je dois dire, j'ai été tout à fait... j'ai adhéré à cette liste qui me paraissait intelligente, car variée, et montrant en plus, alors que je suis quand même assez dans le bain, montrant aussi des artistes que je ne connaissais pas. Donc j'ai considéré que c'était un choix, justement, qui permettait, même à des professionnels, de faire en sorte qu'ils découvrent...
Que les graveurs se rencontrent, en fait.
Découvrent des graveurs qu'ils ne connaissent pas. Alors, dans ceux qui étaient exposés, je connais Dévorah Boxer, Pierre Collin, Yves Doiré, Yves Jobert, Gene Lodge, j'avais vu des choses, mais je connaissais. Ça a été pour moi une manière de révélation. Martin Müller-Reinhardt, qui est un artiste abstrait, très, très bon artiste, qui fait des choses en couleur, très sévère, mais qui parfois d'ailleurs sont en rapport avec la sculpture qu'il fait, avec les œuvres de trois dimensions qu'il peut faire. Là aussi, je trouvais ça très bien. Christiane Vielle, Watanabe, dont j'avais vu des choses, mais de manière tout à fait ponctuelle. Jacques Muron, qui aussi fait partie des peintres graveurs, qui est un très bon buriniste, très figuratif, mais très raffiné. Michel Ronsrel, qui est disparu il y a un peu moins d'un an, et qui était un ami très proche, et qui lui fait de la manière noire. Jean-Pierre Tingo, qui est aussi un buriniste. Tous ces artistes, je les connaissais. En revanche, je ne connaissais pas Grosborne, qui pourtant a exposé à la Bibliothèque nationale. Je ne connaissais moins Catherine Gillet aussi, et d'autres noms, comme je ne les connais pas, je ne peux plus vous les citer. Mais enfin, donc, il y avait quand même justement un bon panorama. Bon, si on m'avait demandé de faire la liste, peut-être j'aurais ajouté, mais pas soustrait, j'aurais peut-être ajouté d'autres noms, mais aucun nom me paraissait ne pas être à sa place dans cette exposition. Et j'ai trouvé que c'était bien. La seule chose que j'ai pu regretter, comme beaucoup d'autres, c'est la brièveté de l'exposition. Enfin, c'est ainsi. Il y a un catalogue qui la pérennise, et c'est une très bonne chose. Par conséquent, je trouve que c'est un bon choix. Effectivement, l'âge des gens aussi est bien, parce que ce sont des gens dans la maturité qui produisent, enfin qui sont en pleine production.
De quelle œuvre justement présentée vous sentez-vous le plus proche et puis le plus éloigné ?
Écoutez, je suis quelqu'un qui aime ce qui est différent de ce que je peux faire. Par exemple, j'aime beaucoup, enfin j'en parle parce qu'il se trouve qu'il y a une exposition de lui actuellement et qui fait partie de l'Académie des Beaux-Arts, enfin il n'est pas dans la section gravure, j'aime beaucoup les gravures de Zhao Wuqi.
Ah oui.
Qui sont vraiment, on peut dire, d'une certaine manière, à l'opposé de ce que je peux faire. Oui. Mais c'est abstrait, c'est en couleur, ça se rattache à une tradition orientale, mais qui est passée par les mains des artisans d'art occidentaux, et à mon avis, l'alchimie est parfaitement réussie. Donc, je suis plutôt attiré par des choses qui me sont éloignées. J'aime beaucoup l'œuvre de Doiré, qui était peut-être plus proche de ce que je faisais à ses débuts, car je l'avais connu à ses débuts quand il était buriniste, avant de faire des grands bois monumentaux qui vraiment se sont éloignés de la figuration que je peux faire. Pareil pour Martin Müller-Reinhardt, qui est un artiste dont j'admire beaucoup justement la monumentalité. J'ai aussi été assez séduit, je dois dire, par le travail de Jean-José Ferreira-Lopez, qui se définit comme un graveur qui utilise des moyens numériques. Donc c'est une ouverture vers des techniques tout à fait nouvelles, dont il est normal que les artistes s'emparent à partir du moment où elles existent. Alors on peut discuter. Il dit qu'il est un graveur qui emploie des moyens informatiques. Alors on peut discuter effectivement sur les termes, puisque jusqu'à présent, les graveurs utilisent leurs mains et c'est le travail direct de la main, tandis que là, la main consiste à travailler sur des claviers, etc. Il y a quand même quelque chose, une distance qui s'établit entre la main, disons, et le résultat. Et puis d'ailleurs, si on considère que c'est de la gravure, qu'en est-il de la lithographie, par exemple, qui n'est pas de la gravure, mais qui est aussi dans le monde de l'estampe et qui est peut-être plus proche de la gravure que l'estampe numérique. Mais enfin,
ce sont les débats internes.
Enfin, c'est des débats. Il est normal que des nouvelles techniques suscitent de nouvelles créations. Et donc, c'était bien de montrer un artiste. En plus, l'image était belle, impressionnante par la taille, et raffinée, complexe. Et donc, c'était très bien de montrer ça. Par conséquent, cette exposition avait justement une ouverture sur les techniques les plus modernes.
Et au niveau des univers de chacun des artistes présentés, lesquels vous paraissent les plus éloignés alors de votre travail encore, puisque c'est peut-être plus facile de parler de choses plus lointaines.
Alors l'univers de Grosborn me paraît très éloigné, je le découvrais, mais m'a séduit, parce que justement j'ai aimé ce travail où il mêle aussi l'informatique, puisqu'il y a des clichés numériques. Il passe par le numérique pour ensuite... en faire des images, mais dans lesquelles il utilise les techniques traditionnelles. Il utilise l'acide, il utilise la gouge. Et par conséquent, j'ai aimé aussi ce mélange de l'ancien et du moderne. Finalement, je suis, dans une exposition comme celle-là, je suis plus touché par les choses que je ne connais pas. C'est d'ailleurs le but des expositions, c'est de vous faire découvrir des choses. Alors que Jacques Muron, je connais son travail, et finalement je suis moins touché à cette occasion par ce que je vois que par ce que fait Gene Lodge, qui est aussi un travail, je trouve, très raffiné et intéressant. Et par conséquent...
Quelle est sa particularité, justement?
C'est l'utilisation comme ça de diverses superpositions de gravures sur bois, de couleurs.
Avec la couleur, hein.
Probablement...
Voilà. C'est très...
Je ne connais pas... Je ne connais pas personnellement.
Portraits...
Je ne connais pas personnellement, donc je ne sais pas quelle est la marche exacte du processus, mais on sent bien que c'est un processus complexe et l'image est très particulière.
Ouais. Pourquoi, à votre avis, Éric de Mazières, la gravure contemporaine est-elle en retrait? Louis-René Berge en parlait tout à l'heure. Enfin, quel est votre avis sur le sujet?
Elle est incontestablement en retrait. D'ailleurs, ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est que le retrait commence très en amont maintenant. C'est-à-dire que les professeurs de gravure dans les écoles d'art constatent une diminution du nombre des étudiants en art qui veulent apprendre ces techniques. Donc, les conséquences seront ensuite à terme la diminution du nombre des graveurs. Donc, des écoles d'art sont amenées à fermer leurs ateliers de gravure, à se séparer de leur matériel. Par conséquent, il y a comme ça une espèce d'érosion qui est très en amont. Alors, la raison est peut-être l'émergence de techniques nouvelles. La gravure est une chose ingrate. Quelque part, c'est sale. On utilise des produits qui sont salissants, qui sont parfois dangereux.
C'est lent.
On utilise du matériel qui est délicat. Enfin, il y a beaucoup d'ingrédients qui entrent en ligne de compte et qui font que ce n'est pas toujours une partie de plaisir par rapport, effectivement, aux possibilités... considérable des techniques nouvelles numériques qui
donnent un premier résultat
qui donnent d'énormes possibilités de s'exprimer, puisque de toute façon, enfin, il y a quand même dans ces techniques une dépossession de l'artiste par rapport à la machine. Mais c'est ainsi, il n'y a pas à le condamner, parce que c'est vrai dans d'autres domaines, c'est vrai dans la musique par exemple, où quand même les procédés électroacoustiques permettent d'obtenir des résultats sonores où l'interprète n'a plus à faire pendant 20 ans des gammes et exercer ses doigts pour y arriver.
Oui.
Donc comme dans la musique, il y a comme ça l'irruption de nouvelles technologies. Mais comme dans la musique, pourquoi les techniques traditionnelles disparaîtraient ? C'est en ça que la gravure ne doit pas avoir de complexe, enfin les graveurs ne doivent pas avoir de complexe à continuer à utiliser des instruments traditionnels dont les possibilités sont infinies, puisque c'est comme l'écriture, c'est comme le piano, chacun en fait ce qu'il veut et par conséquent ça ne sera jamais terminé. Je pense que la matière n'est pas épuisée. Donc il ne faut pas avoir peur des technologies nouvelles. Alors peut-être il y a une espèce de séduction de ces technologies chez les étudiants, par exemple, chez les gens qui découvrent, tout le monde a envie de faire de la vidéo, tout le monde a envie d'utiliser des procédés numériques. Mais je ne pense pas que ça fera disparaître l'envie d'utiliser des procédés traditionnels. Il peut même se produire une espèce de moment où on redécouvrira ces procédés.
Ces procédés...
Comme il y a une espèce d'engouement actuellement pour le dessin, qui est aussi une chose qui est la plus simple au monde, la plus ancienne, et qui réclame la plus grande économie de moyens, car l'économie de moyens, c'est aussi un avantage. Qu'on ne soit pas obligé d'avoir des machines, etc., pour s'exprimer, c'est aussi un avantage. Par conséquent, on peut considérer que les techniques de gravure, par leur relative simplicité, même si il y a un petit peu de matériel, etc., l'eau forte, ce n'est pas compliqué, le burin, c'est d'une grande simplicité. Toutes ces techniques, par leur simplicité, peuvent un jour à nouveau séduire des artistes qui veulent s'exprimer et qui les découvriront ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils pourront encore les découvrir quelque part.
Alors Éric de Mazières, merci de cet éclairage sur la gravure contemporaine et puis d'avoir parlé aussi des graveurs qui vous ont précédé là, à l'Académie des Beaux-Arts. On voit quand même que la gravure est vivante et si les ateliers disparaissent, les graveurs sont là. Merci encore.
Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie.